que le bassin avait été fracturé, entamé par le temps depuis son départ, comme si les règles ordinaires de la physique et du vieillissement des choses ne s'appliquaient pas à cet endroit précis du centre de la France. D'ailleurs, un léger agacement le prit devant son peu de résistance à l'inconnu, à cet inconnu-là. Il se compara à une femme trop facile et sourit. Le prenant par le bras, négligeant les beautés du parc, le général le conduisit au pied du petit escalier à double révolution. La maison n'avait qu'un étage aux fenêtres ouvertes dans ce toit en forme de mitre, bâti sur le modèle de l'hôtel de l'évêque de Bourges, qui était célèbre dans tout le pays, et dans les deux petits toits des ailes, qui présentaient une forme pyramidale plus classique. Le Pompidou, enjambant les demi-fenêtres des cuisines et des caves, menait à un rez-de-chaussée qui était en réalité un entresol, les pièces de réception surplombant le parc. À Pierre qui s'étonnait que les deux parties de ce Pompidou fussent dissymétriques, Grigoriev répondit « Eh oui, à l'instar de la maison de Bussy, cette demeure fut construite sur des fondations plutôt fragiles. » Ils entrèrent par l'arrière. Pierre découvrit un univers banal et clair, et le général lui en fit sobrement les honneurs. Rien n'y étonnait, sauf cette lumière d'octobre que les vitres, par leur irrégularité, semblaient ramener quelques mois en arrière, au temps où le soleil d'été, nourri de poussière et de rires d'enfants, vieillit les tapis et donne envie de refaire les peintures, mais les pièces étaient nues et le silence avait repris ses droits. La bibliothèque aux rayons vides donnait sur un jardin d'hiver où quelques melons finissaient de pourrir, et trois orangers en pot rappelaient les pauvres fastes de naguère. Pierre se souvint de son enfance parisienne. Le général le regardait absorber ce passé. « Curieux bonhomme, pensa-t-il, puis, c'est bien ce qu'il faut. Qui sait ?» Le salon vert en forme de rotonde ne les retint pas longtemps, avec les trois fenêtres donnant sur la plus belle partie du parc, une grande pelouse comme une trouée entre les arbres, et dont un cèdre bleu marquait la fin. Les boiseries étaient fendues en deux endroits, et la peinture verte, en s'écaillant, laissait apparaître les tons naturels du chêne vieilli mais rien d'irréparable. Ils se promenèrent un peu dans le parc, jusqu'au petit temple de Cnid sans parler. En remontant en voiture, Augustin chassa l'image de Marie-Antoinette Grigoriev. Le général pensait à Paul de Bussy, son ancien condisciple, et le cocher commençait d'avoir faim. Pierre repartit à la tombée du jour. Pour revenir à Bourges, il fit le détour de Villers dont la douceur lui plut. Derrière la maison des Grigoriev s'élevaient les flammes de grands brasiers alsaciens, en lisière de forêt. Il jouit de ce spectacle sans trop le prendre au sérieux. Ainsi, les traditions, les astres, les chasseurs et le temps avaient concentré leurs feux au sud de Bourges, on verrait ça. Son père aurait bien ri de toutes ces fadaises, de ces enjolivements tardifs ajoutés à l'histoire des siècles, une histoire sans aveu, disait-il, difficilement supportable. Augustin pourtant sentait bien l'attrait de ces endroits perdus. L'espace d'un instant, le général, sa femme, les paysans qui regardaient la voiture, le cocher, et les trois vieilles croisées tout à l'heure sur la route de Saint-Ramans et cela la campagne, disait son père, trois vieilles sur une route déserte, le dimanche, qui vont on ne sait où lui apparurent comme les personnages d'une pièce à jouer, et dont le décor serait vivant. Bah. On n'a pas encore trouvé la machine du monde, et le diable n'est pas berrichon. Revenons sur terre. Cette terre-là n'était d'ailleurs pas désagréable. Il évoqua le mot d'asile et le malheureux Alcossé lui revint en mémoire. Klein finirait sûrement par se prendre d'amitié pour le vieux fou. Lui-même l'avait aimé malgré lui et malgré eux. Il eut peur de la folie dire qu'il suffisait d'un rien, et c'était les ténèbres. Posséder Bussy, plus simplement, le comblait. C'était comme faire un écart, un pas de côté. Rentrer par effraction, non seulement dans un monde jusque-là ordonné et où la dévolution de Bussy eût dû obéir aux règles strictes de toujours, en sorte qu'il se verrait attribuer un rôle nouveau pour lui, celui de figure, sinon d'agent du destin, mais aussi dans le monde de ceux qui ont une maison et vont à la campagne, et marchent sur une terre dont ils disent qu'elle est la leur. Et rêvent de retour en ville, au balancement des arbres, et aux promesses toutes simples du soir qui tombent à rien de grand, Être un autre, c'est être un autre. Il avait un sentiment de réussite, de plénitude. Il était bien content. Si Augustin avait pu voir, à ce moment, Marie-Antoinette entourée de ces chasseurs bruyants qui, à la nuit, avaient envahi sa maison, sans doute ne fût-il jamais revenu. Il tenait de son père le dégoût des gens qui font trop de bruit, et pouvait prendre en grippe toute une foule de choses innocentes dès qu'il les avait associées à l'idée du bruit. Or ce soir-là, dans le salon directoire et dans la bibliothèque aux insectes, le porto circulait comme un fluide et la liberté gagnait du terrain. Pour la plupart de ces hommes bien nés, amateurs de bons gibiers et de mauvais cigares, la liberté avait le visage et le corps de Marie-Antoinette Grigorieff. Le général ne s'en offusquait pas. Elle était magnifique, elle avait autrefois bouleversé sa vie. Sa robe sang de bœuf, largement décolletée, résumait les plaisirs cruels de la journée, et les enfants vieillis qui l'entouraient évitaient mal les flèches de son ironie imprécise. Ce colosse n'est pas un coureur de dames, il a 5 enfants et force les paysannes comme des chevreuils. Il se croit attiré par Marie-Antoinette et revoit quand elle rit, très vite, ses voyages à Paris, le général énigmatique, ce prénom des supplices et ne sait pas qu'il la hait. Les autres la courtisent par plaisir et par habitude, avec des mots d'anciens fêtards que leurs épouses à moitié délaissées tolèrent complaisamment chaque année à l'automne. Marie-Antoinette jouit de leur manière gauche, de leurs gestes interminés et de leur illusion de peupler la terre à force de cousins, depuis le commencement des siècles, les Bonabes, les Paulines et les Victor s'aimant, se trompant malades, heureux, frivoles avant de disparaître pour revenir après une génération. Très vite, elle enlève ses gants, parce qu'elle aime toutes les sensations du bout des doigts. À dîner, on parle des vieux comme s'ils étaient d'une autre espèce pendant qu'au dehors devant le